Yannick Zuffray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Lombard Odier Investment Manager. On va parler avec vous de la stratégie sur les marchés obligataires. Commençons, si vous voulez bien, par l'environnement macroéconomique. Il y a peut-être un petit peu moins de croissance, mais est-ce qu'au global, vous diriez que la croissance économique est là, mondiale?
Oui, effectivement, après une reprise suite à la crise financière, puis à la crise de la dette européenne qui a pris du temps. Nous retrouvons actuellement dans une phase de croissance au niveau global, même s'il existe des disparités régionales. Et ceci a été reflété la semaine dernière dans le discours des banques centrales. On a eu notamment la Fed qui a été plutôt constructive, alors que la Banque centrale européenne et la Banque du Japon sont montrées plutôt prudentes. En fait, l'économie américaine tourne à pleine croissance actuellement, avec un chômage au niveau les plus bas et donc une inflation en hausse, ce qui explique la politique monétaire de la Banque centrale américaine, qui est dans une phase de hausse, de normalisation de ses taux d'intérêt afin de maintenir l'inflation sous contrôle. De son côté, la Banque centrale européenne, elle, est plus prudente, puisque si la croissance dans la zone euro est effectivement positive en reprise, l'inflation, elle, reste largement en dessous des objectifs que s'est fixé la Banque centrale européenne. Et une fois de plus, Draghi a réussi à nous surprendre la semaine dernière, puisque cette fois, c'était pas whatever it takes, c'était tout simplement l'annonce du maintien des taux négatifs jusqu'à un minimum de 12 mois.
Alors, quand on regarde justement ces deux zones, est-ce qu'aux États-Unis, le sujet de l'inflation qui avait fait peur d'ailleurs au marché en début d'année, est-ce qu'il pourrait revenir ou est-ce qu'aujourd'hui il est mis de côté par les investisseurs? Est-ce qu'ils l'ont intégré concrètement?
Alors, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a été pris en compte au début, surtout au début de la présidence de M. Trump, puisqu'il était venu avec des annonces effectivement assez massives. On a vu d'ailleurs en ce début d'année beaucoup de volatilité sur les taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt qui ont commencé, si on prend par exemple le 10 ans américain, le taux d'intérêt qui a commencé l'année à 2,4%, qui est monté jusqu'à 3,1%, qui est revenu actuellement autour des 2,9%. Je pense un élément à prendre en compte par rapport à cette inflation, c'est l'impact que pourraient avoir les mesures liées à la guerre commerciale qui semble se mettre en place entre les États-Unis et les autres zones du monde.
Justement, de ce point de vue-là, c'est peut-être un facteur à redouter, c'est de se dire qu'à force de cumuler ce type de mesures, on arrive à une guerre d'échange, effectivement, là, entre la Chine et les États-Unis, et on sait que ça peut avoir des conséquences.
Oui, alors je pense qu'on est encore loin d'une vraie guerre commerciale, mais c'est vrai qu'on en voit actuellement les prémices et c'est relativement inquiétant. Maintenant, je pense qu'il faut le mettre en perspective avec l'état de l'économie mondiale. L'économie mondiale actuellement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est en phase de croissance. Au niveau global, pour la première fois, on a une croissance relativement synchronisée, même si les rythmes sont différents, mais dans la plupart des régions, on a une croissance positive. Et dans ce genre d'environnement, l'économie est capable d'absorber beaucoup de chocs. En général, ce qui déclenche une crise, je dirais, détérioration de la croissance mondiale, ce sont plutôt, je dirais, des politiques monétaires de hausse des taux soudain qui sont trop importantes par rapport à la vitesse de la croissance mondiale.
Donc aujourd'hui, on va dire que les banques centrales, pour l'instant, maîtrisent la situation, mais quand on parle de normalisation, il y a beaucoup d'investisseurs qui disent finalement, on ne va jamais normaliser ces politiques monétaires puisque les taux vont rester encore bas compte tenu de la dette aujourd'hui, dette publique, dette privée. Les banquiers centraux sont un petit peu coincés.
Alors, je dirais qu'il est vrai que je ne pense pas qu'on va revenir à des niveaux de taux d'intérêt qu'on a vus il y a, je dirais, avant la crise, la grande crise financière, puis la crise de la dette européenne, pour les raisons que vous avez citées. Mais on s'aperçoit tout de même qu'il y a un besoin de normalisation, en tout cas d'une partie de ce niveau, je dirais, de taux d'intérêt qui sont en territoire négatif, par exemple, dans la zone euro. Et on le voit, typiquement, la Fed a commencé à normaliser les taux. Et finalement, le choc qui était attendu sur les marchés financiers ne s'est pas vraiment réalisé. Oui, il y a une certaine volatilité, oui, il y a une certaine pression, mais on s'aperçoit, comme j'ai dit à nouveau, que pour l'instant, les économies mondiales sont capables d'absorber ces chocs.
Alors, on a vu tout de même plus de volatilité, y compris sur ces marchés obligataires. Et c'est vrai que quand on parle de ces marchés traditionnellement, on va dire, mais depuis des siècles, on pourrait dire, les marchés obligataires, ce sont des marchés tranquilles. C'était des marchés tranquilles, c'était des marchés sécurité. Et voilà, on investit pour la durée des obligations, mais Comment aujourd'hui on gère justement, comment on adapte la gestion à cette nouvelle volatilité qu'on découvre depuis plusieurs mois?
Alors, effectivement, en tant que responsable de la gestion obligataire de Lombard Odier Investment Manager, je préférerais qu'on reste dans un environnement calme, ça rendrait mon travail plus simple. Mais il est vrai, mis à part cette plaisanterie, que nous nous retrouvons en fait dans un nouvel environnement pour le marché obligataire. Après des décennies finalement de marché haussier, nous nous retrouvons avec effectivement des taux d'intérêt au niveau les plus bas. Et par conséquent, on s'attend à une normalisation qui va amener de la volatilité sur les marchés des taux d'intérêt. Donc, notre approche chez Lombard Odier Investment Managers, c'est en fait de se focaliser sur la durabilité des investissements. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde le point de départ qui a été utilisé historiquement et qui est toujours utilisé par la plupart des investisseurs lorsqu'il s'agit de déployer du capital sur les marchés obligataires, eh bien, ce point de départ, ce sont les indices traditionnels en capitalisation de marché. Ce qui revient en fait à allouer de la dette aux émetteurs en fonction de leur stock de dette, de leur endettement, sans aucune discrimination liée à leur solvabilité. Et ceci n'est pas soutenable. Et on l'a vu avec l'explosion qui a suivi la crise des télécoms et des technologies en 2001, puis l'explosion de la bulle financière. On a passé au travers de grosses corrections de marché et on s'est rendu compte que ceci n'était pas soutenable. Aussi, en 2009, chez Lombard Odier, nous avons commencé à repenser la manière de construire des portefeuilles obligataires en nous focalisant plutôt sur la qualité, sur la durabilité des investissements, plutôt que simplement sur l'endettement des émetteurs.
Alors, du côté des perspectives, c'est vrai que on parlait tout à l'heure de guerre commerciale. On aurait pu parler aussi de ce qui s'est passé en Italie, qui a à un moment donné fait peur au marché. Au-delà des risques potentiels, comment doit évoluer ou comment va évoluer votre stratégie?
Actuellement, en fait, notre approche de gestion, en fait, consiste à évaluer cette soutenabilité, cette durabilité des investissements, et nous le faisons sous trois angles. Donc, nous allons considérer tout d'abord la durabilité financière des émetteurs. Dans le cadre de la gestion obligataire, c'est un focus surtout sur la solvabilité des émetteurs. On va considérer un deuxième pilier pour à évaluer la durabilité des investissements, c'est les pratiques des entreprises. Ces pratiques des entreprises, nous les mesurons à travers notamment l'impact environnemental de ces entreprises, à travers des mesures liées à également la gouvernance et les angles sociaux, et finalement les controverses, puisqu'en fait, si vous prenez le cas d'une entreprise qui traite, par exemple, mal ses employés, eh bien, vous pouvez vous attendre à ce que son coût du capital augmente et par conséquent que ça ait un impact sur sa solvabilité, sur ses résultats financiers. Et le troisième pilier pour évaluer la durabilité, ce sont les pratiques, la capacité des entreprises à résister finalement à des changements structurels. Typiquement, la démographie, le changement climatique, par exemple, les limitations des ressources naturelles, les inégalités. On appelle cela l'évaluation de la durabilité des business models, des modèles d'affaires des entreprises.
Merci Yannick Dufresne d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.